Bon, ben, du coup, on commence, non? Non, en fait, là, l'idée de discussion de cet après-midi, c'était sur une discussion sur l'intérêt de la lutte contre le naturalisme pour la lutte contre le spécisme. Bon, alors, je sais, je n'ai pas compris s'il y avait des gens qui n'étaient pas antispécistes ici, parce que du coup, ils pourraient ne pas se sentir concernés, mais ça peut être formulé aussi autrement, hein, l'intérêt pour la lutte contre l'exploitation des animaux. Et donc, bon, c'est une discussion qui porte sur le naturalisme. Et en fait, a priori, il y a plusieurs personnes là qui ne connaissent pas du tout ce qu'on entend par naturalisme, donc il va falloir expliquer, ce qui est embêtant. Donc je vais essayer d'expliquer un peu. Pour faire en deux mots, le naturalisme, c'est la croyance dans l'idée de nature. De façon pratique, on rencontre ça tout le temps quand on se préoccupe des animaux. Par exemple, quand les gens nous disent « mais manger de la viande, c'est naturel », ou quand les gens nous disent « mais les animaux, ils se mangent bien entre eux ». En fait, quand ils disent ça, il y a des implicites derrière. L'implicite, c'est « si c'est naturel, c'est que c'est bien, c'est un modèle à suivre ». Et quand ils disent « les animaux se mangent bien entre eux », l'implicite, il me semble, il est un peu du même ordre. C'est pas vraiment dire directement il faut copier les animaux, c'est il faut copier les animaux parce que si les animaux le font, c'est que c'est naturel. Alors ils prennent évidemment pas n'importe quel exemple, vu que c'est manipulable à merci, ce genre de choses, hein. C'est pas les vaches auxquelles ils pensent, hein. C'est les lions, enfin c'est les animaux auxquels ils s'identifient, c'est pas les proies et c'est les prédateurs, hein. Mais c'est le type d'argument qu'on rencontre systématiquement quand on parle de végétarisme, de se soucier des animaux, mais c'est aussi des types d'arguments qu'on rencontre quand on parle des rapports hommes-femmes ou de plein d'autres sujets. Et quand on rencontrait les anti-esclavagistes, on rencontrait des arguments de ce style aussi il y a un siècle. Et bon, en fait, cette idée de nature, c'est une idée qui est absolument omniprésente dans notre société, et ça depuis longtemps. Ça fait bien 2000 ans qu'on la retrouve vraiment partout et un peu à toutes les sauces. Et c'est l'idée, c'est pas la même chose que l'idée de réalité, par exemple. Quand on parle de la nature, on se représente en fait, bon, d'une part ce qui nous entoure, mais d'autre part, on se représente le monde comme quelque chose qui est ordonné, une sorte d'ordre, où les choses ont une place particulière, elles ont leur place. Elles ont une fonction, qui est une fonction au regard de la totalité. C'est-à-dire que la nature, c'est la totalité un peu de ce qui existe. Et les choses qui sont censées en faire partie sont censées avoir une fonction propre, un rang à tenir, en quelque sorte, pour que la totalité marche bien. Et cette totalité, elle est censée être plus ou moins harmonieuse. Ça va aussi avec cette notion d'ordre. Ou cette notion d'équilibre, c'est censé être équilibré. On va un peu moins parler d'ordre aujourd'hui, on va un peu plus parler d'équilibre. Bon, mais fondamentalement, c'est un peu les mêmes notions qu'il y a derrière. Et ces choses naturelles, qui sont donc censées être adaptées à leur place dans la nature, à leur rang, à leur fonction, elles ont une nature propre, elles ont une nature spécifique qui est en quelque sorte leur programmation, ce qui leur permet de tenir leur place et de remplir leur fonction. C'est comme ça qu'on va parler, je sais pas moi, un chat qui se nourrit végétarien, on va dire mais c'est plus un chat. Un chat c'est carnivore, ce chat-là c'est un chat dégénéré. C'est-à-dire qu'on considère que il y a une nature de chat qui existe quelque part et que ce chat, il a cessé de correspondre à sa nature et il a perdu quelque chose. Il a perdu de l'authenticité, il a perdu une sorte de réalité, il a perdu une sorte de vérité. Il n'est plus adéquat à ce qu'il doit être et il est dégénéré. Et bon, c'est censé être bien sûr un truc négatif. Et en fait, cette notion de nature, on s'aperçoit qu'elle diffère de la réalité, justement dans le fait que la réalité, elle est purement descriptive. La réalité, c'est tout ce qui existe. Bon, quoi qu'on fasse, c'est réel. La nature, c'est quelque chose qui, en fait, se donne a priori comme descriptif, c'est ce qui est, les choses sont naturelles, etc. Mais en fait, c'est prescriptif, c'est un truc normatif, puisqu'on peut aller contre nature, on peut enfreindre les lois de la nature, on peut être contre nature. Par exemple, jusqu'à récemment, c'était contre nature que l'homosexualité, par exemple. Maintenant que l'homosexualité commence à être un peu acceptée socialement, on découvre opportunément qu'il y a plein d'animaux qui ont des comportements homosexuels. Pour continuer à considérer, pour continuer à garder ce sort de rapport, de modèle avec la nature. Donc on va... C'est un truc qui est très ancien, hein. Moi j'avais lu dans un bouquin que les Anglais, par exemple, ont mis plus d'un siècle avant d'accepter l'idée que c'était pas un roi des abeilles, mais une reine des abeilles. À une époque, c'était pas des reines qui gouvernaient en Angleterre.
Et là, ils étaient contre nature, parce que c'était la reine.
Oui, mais à l'époque, c'était des rois. Maintenant, ça a changé, mais... Ils ont refusé. Ce que je disais, c'est qu'en fait, quand on a commencé... Non. Ils ont dit, les gens qui disent qu'en fait, c'est des reines, les reines des abeilles, ils se trompent. En fait, c'est des rois. Et pendant plus d'un siècle, les Anglais ont refusé d'accepter l'idée qu'il y avait des reines des abeilles. Parce qu'il y a ce rapport... Non, c'est parce qu'ils tenaient à conserver un rapport...
Non, mais par rapport aux mots nature, tu le classais comment ?
Ils étaient complètement dans un... à croire en la nature et à vouloir conserver un rapport de...
Ils ne croyaient pas en la nature, c'est ce qu'ils disaient le contraire de la nature.
Non, c'est parce que...
La nature à leur gré, quoi.
Voilà.
Voilà, on a un roi, donc forcément dans la nature...
En fait, c'est simplement qu'on avait cru jusqu'à, je ne sais plus, je ne me rappelle plus quel siècle, mais peut-être 16e ou 15e siècle, que les grosses abeilles qui étaient dans les ruches, c'était des rois. Et que ça correspondait. Et les Anglais en étaient bien contents parce qu'ils avaient des rois. Et quand on a commencé à avancer l'idée que ce n'étaient pas des rois mais des reines, eh ben, il a fallu plus d'un siècle pour que l'idée s'impose en Angleterre, parce que les gens ne voulaient pas renoncer à cette sorte de signe de légitimité, de légitimation de la royauté, que semblait être pour eux le fait que les abeilles avaient des rois.
Et le banquet de Platon, c'était pas des homosexuels, déjà, c'est ce que je disais ? Ils n'étaient pas les repères des hommes à l'époque ? Ah oui, donc c'était bien les hommes. C'était la civilisation, la nature, c'était la civilisation anglaise.
Non, en fait, c'est la civilisation. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un rapport bien particulier à cette idée de nature. Elle est ce que moi, j'appellerais un rapport religieux, un rapport mystique. C'est qu'on conçoit la nature comme une totalité. On lui donne, on lui prête une puissance. On lui prête une sorte de dessein ou de finalité, et quelque part on la personnalise, et on a un rapport à elle qui est un petit peu semblable, un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de nuances à apporter, mais un petit peu semblable au rapport qu'on peut avoir à Dieu ou à des sortes de totalités puissantes. C'est un rapport de soumission, mais qui se veut être une soumission volontairement consentie, quoi, c'est un modèle qu'on doit suivre. Elle délivre des signes, des sagesses. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit d'une soumission librement consentie. On est dans un rapport un peu filial à elle. Et je dis que c'est un rapport de type mystique, parce qu'il y a ce rapport qui est typique à une puissance, quelque chose qui est à la fois imposant, qui peut nous englober, c'est-à-dire que c'est aussi une appartenance, on en fait partie, on peut se reconnaître dedans, qui est un peu le même rapport qu'il y a à une divinité, quoi. Et cette notion de nature, elle aboutit donc au fait que les choses sont censées avoir une nature. Et c'est particulièrement net, par exemple, pour l'histoire de race au sein des humains. C'est-à-dire que la notion de race... Le problème, c'est que c'est dans l'idéologie raciste, c'est devenu une appartenance. C'est-à-dire qu'on n'a plus des individus face à soi. Par exemple, des individus qui auraient comme qualité, entre autres, d'être blanc ou noir, de peau, mais on a des spécimens d'entité, de nature. C'est-à-dire qu'un noir, ça devient un spécimen du groupe des noirs, mais auquel est censé correspondre une nature particulière. Et un blanc, c'est censé être un spécimen des blancs. Est-ce que c'est compréhensible à ce que je dis ?
La nature, c'est qu'il n'y a pas de race, ça a été prouvé par un groupe, mais on peut dire que si ça arrange les gens de dire qu'il y a des races, c'est pas naturel, c'est une peur qu'ils ont de dire qu'il n'y en a pas ou je ne sais pas pourquoi.
Je vais essayer d'expliquer mieux. Par rapport à la notion de race. Oui, mais
ça a changé.
La notion de race, je trouve que c'est plutôt un bon exemple de cette idée de nature. C'est que de fait, on peut catégoriser les humains en plein de catégories selon les critères qu'on choisit. Et on peut aussi.
C'est naturel de faire des catégories.
On peut le faire, c'est logique de le faire. On prend un critère et puis on dit tous les humains qui correspondent à ce critère, je les mets dans telle catégorie. Tous les humains qui correspondent à tel autre critère, je les mets dans une autre catégorie. Et bon, voilà. Et on peut comme ça avoir. Voilà.
Oui, mais c'est parce que là où je veux en venir, c'est
que la notion de race, c'est une classification bien particulière. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, classifier les gens en gros et petits, par exemple. Mais on n'en fait pas spécialement des natures. Il y a un petit peu cette tendance-là, mais gros et petit, ça reste des qualités de ces gens-là, des propriétés de ces gens-là, des caractéristiques de ces gens. C'est-à-dire qu'on peut faire le groupe des gros et le groupe des petits, mais on ne va pas s'amuser à dire qu'ils sont définis par cette caractéristique-là. C'est ce qui s'est passé avec la caractéristique de race. C'est-à-dire qu'on a pris un critère, le couleur de peau par exemple, et on en a fait le signe d'une nature particulière.
Il est inscrit peut-être dans un code génétique aussi. Au niveau des sciences, de la biologie, de l'entomologie, etc., il y a eu la classification, c'est faite par rapport à. Bon, il y a eu des tâtonnements, il y a eu des erreurs, il y en a certainement encore maintenant, mais il y a une référence maintenant quand même à un code génétique.
Oui, mais ça, je dirais que c'est un discours a posteriori. C'est c'est pas la génétique qui a fondé la notion de race. La notion de race, elle s'est fondée, en fait, par rapport à des impératifs politiques, en fait, d'asservissement et de classification et de discrimination entre les peuples, entre les classés de façon assez large. Ensuite, la génétique, comme plein d'autres histoires, ça peut être aussi la physionomie, physionomie ou des choses comme ça, enfin, selon les siècles, est venue comme discours légitimement. Mais au départ, il y a eu une opération bien particulière qui n'était pas uniquement de classification, il y avait quelque chose de plus qui différait d'une classification en termes de yeux bruns, yeux bleus, par exemple, ou gros ou petit, et qui a été une classification en termes de nature. C'est-à-dire qu'on a dit que les êtres à peau noire étaient d'une nature différente que les êtres à peau blanche, par exemple. Et ça signifie qu'au lieu de rester une de leurs propriétés parmi d'autres, une de leurs particularités, spécificité, d'avoir une peau blanche ou une peau noire, c'est devenu leur nature, c'est-à-dire que c'est devenu ou le signe de leur nature, un signe concret de leur nature, c'est-à-dire de leur être. C'est devenu avant. C'est un peu la différence entre dire j'ai une peau noire ou dire je suis un noir. Si je dis je suis un noir, ça prend valeur de j'appartiens au groupe des noirs et j'ai une sorte d'identité noire, une sorte d'être noir. C'est ça cette idée de nature. C'est c'est une idée, à mon avis, qui est aussi une idée mystique, un peu comme l'idée d'âme. C'est-à-dire que les choses sont censées avoir une nature qui les définit. C'est censé être une définition de l'être.
C'est un peu vouloir rationaliser ce qui est naturel et ce qui devrait passer sous. Devrait tomber sous le sens. Non ? Je veux dire qu'il y a des différences entre être et vouloir donner une idée de nature. C'est une forme de rationalisation qui peut
pervertir un peu la nature même.
À un certain niveau, ça peut être une forme de rationalisation, mais enfin, à l'heure actuelle, c'est plutôt une forme d'irrationalisation.
Parce que c'est la nature, c'est beaucoup plus facile que de démontrer par appliquer qu'on a raison de nature, parce que c'est une façon de dire.
Ah, oui, bien sûr. Oui, oui. Non, mais là, ce que j'essaie de montrer, c'est le phénomène, ce que signifiait ce que j'appelle la naturalisation, en fait. Que signifie le fait de penser que les choses ont une nature? Un chat, par exemple, dire qu'il a, il a une nature de carnivore, c'est penser que, quelque part, il est, d'une part, d'une seule pièce, qu'il est défini, et qu'il a une sorte de modèle qui lui colle à la peau et duquel il peut éventuellement s'écarter, mais auquel il doit être ramené.
Est-ce que Yves, ce serait pas clair, plus clair pour un certain nombre de gens ici si tu précisais que toi, tu critiques la notion de nature et que tu refuses de considérer la nature comme une référence de comportement? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont, n'ont pas fréquenté l'antispécisme et autres, et qui, quand tu dis nature, pensent systématiquement quelque chose de positif.
C'est-à-dire que pour moi, la nature, c'est quelque chose qui est vivant, donc qui est évolutif. Donc on ne peut pas dire la nature, c'est ça, parce que c'est quelque chose qui évolue par définition. C'est du vivant. Si on dit qu'elle est morte et qu'elle est catégorisée, c'est plus la nature, c'est je ne sais pas quoi, moi. Par définition, la nature, c'est vivant, je crois, ça évolue, les espèces évoluent. Il y en a qui apparaissent, qui disparaissent, les hommes évoluent, je ne sais pas. On peut changer d'optique de plantation,
c'est-à-dire que moi je crois pas en la nature, je crois pas que la nature existe, ni la nature avec un grand N, ce qu'on appelle la nature quand on veut désigner le monde, c'est-à-dire je pense pas que le monde soit ordonné, ni harmonieux, ni qu'il ait une finalité, ni que, qu'il soit équilibré, et d'autre part je pense pas que les choses, quelles qu'elles soient, qu'on puisse dire des choses qu'elles ont une nature. C'est-à-dire que les choses, je pense qu'elles sont ce qu'elles sont d'une façon, parce qu'elles résultent d'une infinité de causes, et qu'on peut dire qu'elles sont ce qu'elles sont en fonction d'une infinité de causes, mais pas parce qu'elles possèdent une nature spécifique, une nature particulière, une nature donnée. Mais les causes, elles viennent de 100 000 choses, de plein de choses, de l'histoire, de 3 milliards d'années de hasard accumulés, de... Enfin, moi, je pense... Mais elle résulte aussi de ce qui a été vécu, elle résulte de conjonctions de gènes, de l'alimentation, de plein de choses.
Mais elle ne résulte pas d'une volonté, c'est ça.
Elle résulte d'une multiplicité de circonstances qui sont accumulées. Qui sont là, qui sont réelles, qui sont des circonstances réelles.
Tu crois qu'on est tous en train de regarder, écouter ce qu'ils disent, ce que tu dis en disant on comprend rien.
Cette notion de nature, en fait, elle a servi de nature en tant que totalité. Et cette notion de nature, le fait de penser que les choses dites naturelles ont une nature propre, c'est ce qui a permis de créer les notions de race ou de sexe ou d'espèce en tant que notion de nature. C'est-à-dire que quand on... de la même façon que la notion de race, c'est ce qui est critiquable, c'est de dire, c'est de penser que parce qu'une personne a telle couleur de peau, alors elle a telle ou telle caractéristique, elle a une sorte d'être particulier. De la même façon, on en fait une sorte de généralité, en fait. Là, je m'embrouille. C'est une sorte de principe.
Après, on prend des préjugés sur l'idée de nature, alors que c'est naturel. Enfin, je sais pas, moi, je vois comme ça, je vois quand même qu'il y a une nature, mais on l'a perverti en mettant des idées. Celui-là, il est comme ça, donc c'est sa nature d'être comme ça. On se sert des différences de la nature pour en faire...
Je pense que c'est... que ça n'a pas de sens de raisonner fondamentalement en termes de nature à la base. Mais c'est ce que j'aimerais arriver à faire.
Je comprends pas pourquoi c'est mal de raisonner en termes de nature. Ça veut dire ça, raisonner en termes de nature. Comment on peut faire si on peut plus les.
Parce que la présentation est infinie.
Yves, tu devrais faire la présentation sans. Et après, on interagit après.
Ouais.
Oui. Là, il y a aussi un. Enfin bon, je vais effectivement, parce qu'elle a fini rapidement, puis après on pourra faire des questions-réponses, ça sera mieux pour moi. Je pense aussi que cette idée, cette sorte de rapport un peu religieux qu'il y a à l'idée de nature, qui fait que la nature s'est perçue comme quelque chose de. Un exemple à suivre, ça fait que les gens, au lieu de se poser des questions en termes éthiques, en termes de ce qu'il est juste ou pas juste de faire, vont se poser les questions en termes de nature, c'est-à-dire savoir est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est pas naturel. Et c'est assez clair avec les exemples que je donnais au départ, quand il va y avoir des discussions pour savoir si le végétarisme ou le carnivorisme, c'est naturel aux humains ou non. Et ben, pour moi, c'est une discussion qui n'a absolument aucun sens, c'est-à-dire la seule question, il me semble, valable à ce niveau-là, c'est, un, savoir si c'est juste ou non de manger des animaux, et deux, savoir quelles sont les conséquences si on cesse de manger des animaux, c'est-à-dire si c'est possible ou non, et si c'est possible, à quel prix, etc. Et c'est des questions concrètes, des questions qui portent sur le réel, et qui ne portent pas sur une sorte d'imaginaire, savoir si c'est naturel ou pas, si ça colle à notre nature ou pas.
Mais manger colle à notre nature quand même, parce que si on ne mangeait pas, c'est fini.
Et donc, ce que je voulais dire, c'est que cette idée de nature, très souvent, elle prend la place, la réflexion en termes de nature, est-ce que c'est naturel ou pas, prend la place de la réflexion éthique. Et c'est valable aussi au niveau politique. C'est-à-dire que très souvent, la question en termes de nature éclipse la question en termes politiques. Des exemples, ça va être par exemple la nourriture bio, par exemple. On focalise sur le fait que c'est de la nourriture naturelle, comme si en soi ça signifiait quelque chose. C'est-à-dire que bon, ça fait très bien de poison, la nourriture naturelle. Alors qu'en fait, l'agriculture bio, elle pose des problèmes qui sont des problèmes politiques, mais du coup qui passent au second plan, qui sont le problème de la critique du productivisme. C'est-à-dire en fait, le fait de vouloir produire en souciant que de produire au maximum. Ou qui sont la critique de la concentration des moyens de production dans quelques mains, quoi. Ça, c'est des problèmes politiques, mais qui sont complètement éclipsés par l'idéologie du naturel en ce qui concerne la bio, alors que ça pourrait être des problèmes que la bio aurait pu poser. En fait, c'est raté à cause de cette idée de nature. Ou pour les OGM aussi. Les OGM, ils posent des problèmes politiques, c'est-à-dire que c'est aussi une possibilité pour de concentration du pouvoir à travers les brevets, etc. Donc ça, c'est un problème. La population, qu'est-ce qu'elle retient? Uniquement que c'est des chimères et ouïouïoui, c'est dangereux parce que c'est des chimères. C'est-à-dire qu'elle raisonne en termes de « Ah, on a magouillé dans la nature des choses, on a fait des mélanges et de ce fait-là, c'est dangereux. » Alors que ça ne correspond pas nécessairement à une réalité réelle, à une réalité concrète. Ce qui est retenu, c'est un truc qui, à mon avis, est de l'ordre de l'imaginaire et du fantasme. Et encore une fois, le problème politique que posent les OGM, il est passé sous silence. Et on a ça dans plein de domaines. Pour moi, la question du végétarisme, c'est un problème politique, c'est un problème de, à la fois éthique et enfin de est-ce qu'il est juste d'opprimer des animaux et de les massacrer pour s'en nourrir. C'est un problème qui est il va très facilement passer dans la tête des gens comme un problème de nature. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que ça l'est pas de manger des animaux? Est-ce que les hommes préhistoriques mangeaient des animaux? Est-ce qu'on a une dentition comme ci ou comme ça? Est-ce qu'on a des intestins qui font 3 mètres ou 6 mètres? Qui sont toutes des questions qui ont surtout un sens en tant que signe, savoir si, est-ce que c'est naturel pour nous ou pas, quoi. Parce qu'on sait qu'on peut manger, ne pas manger de viande. J'ai pas besoin de me poser la question de la longueur de mes intestins pour savoir que si je mange pas de viande, je suis en bonne santé. On le sait, il y a des millions d'individus sur la surface de la Terre qui, depuis des centaines d'années, ne mangent pas de viande et on sait qu'ils s'en portent très bien. Donc on n'a pas besoin de se poser la question de nos intestins. Si on la pose, c'est bien pour une histoire qui n'a pas de rapport direct avec la réalité, qui est lié à notre imaginaire, en fait. Et c'est des histoires symboliques et de savoir si on colle à une sorte de norme naturelle ou pas, quoi. Mais on quitte le domaine de l'argumentation qui porte sur des faits, sur quelque chose qui est en lien avec la réalité pour gagner le strict domaine du fantasme, quoi. Et je pense que cette idée de nature, c'est une idée qui en général est extrêmement conservatrice, voire réactionnaire, qui de tout temps a servi à justifier les systèmes de pouvoir. C'est-à-dire que l'ancien régime, il se fondait sur l'idée de nature, il disait que c'était par nature, enfin que naturellement, il y avait des hiérarchies, il y avait un roi. Mais le patriarcat, il se fondait sur l'idée de nature. C'est par nature que les hommes étaient forts et costauds et dominants et violents et avaient pouvoir sur les femmes et sur leurs enfants. Et c'est par nature que les humains ont pouvoir sur les animaux. De la même façon, c'était par nature que les blancs avaient l'intelligence pour gouverner les noirs, qui étaient qu'un tas de muscles. Et ça, c'est des discours qu'on retrouve aussi bien dans la Grèce ancienne qu'il y a un siècle et demi en France ou aux États-Unis. C'est des discours qui sont universels, c'est des discours de légitimation des dominations par l'idée de nature. Et cette idée de nature, nulle part, elle est aussi affirmée, omniprésente que par rapport aux animaux. C'est-à-dire qu'on a les mêmes discours pour justifier la domination, pour justifier l'oppression, mais de façon encore plus indéracinable. Parce que là, avec l'évolution un peu de l'humanisme, les groupes dominés, la plupart des groupes dominés, je pense aux Noirs, aux femmes, ont pu se battre et argumenter que non, ils ne sont pas des êtres naturels, non, ils ne sont pas guidés par leurs instincts, non, ils ne sont pas que des corps, ils ont aussi une intelligence, etc. Et ils ont pu argumenter de sortir de la case nature pour rejoindre la case humanité, alors que les animaux, ils ne peuvent pas se battre, ils sont complètement immergés dans cette case nature, où ils sont censés être déterminés, alors que nous, on est libres. Ils sont censés être régis par leurs instincts, alors que nous, c'est l'intelligence qui nous guide, etc., etc. Ces oppositions-là, elles valaient aussi pour les femmes, pour les noirs, etc. C'est des oppositions qu'on retrouve au cours de l'histoire, systématiquement, et en fait, qui suivent le clivage dominant-dominé. Et bon, pour faire vite, moi je pense que cette idée de nature, c'est une pièce maîtresse dans un dispositif idéologique qui justifie le spécisme, qui justifie la domination qu'on exerce à l'encontre des autres animaux.